depuis ses jardins suspendus, bien c'est la marque de fabrique.
Plus on se rapproche des plantes, plus on a encore envie de s'approcher, et quand on rentre dans la nature, c'est tellement immense.
Et là, ça a été le départ d'une vraie aventure.
Les jardins suspendus, Olivier Horry.
Bonjour et bienvenue dans ces tout derniers jardins suspendus avant fermeture. D'ailleurs, ce matin, une mouche m'accompagne dans les studios. C'est peut-être le signe qu'il est temps de s'arrêter, ça sent la mort. Des jardins suspendus à la poursuite d'Olivier d'Ancône, mon saint patron ayant vécu au 5e, 6e siècle, évidemment donc de notre ère, du côté d'Ancône, peut-être, où il était peut-être celui qu'on avait reconnu comme un confesseur local de première grandeur, une espèce de top one de la confession dans le coin. À l'époque, cet homme probablement lié au mouvement bénédictin à ses tout débuts, était probablement assez cultivé et possédait vraisemblablement quelques connaissances de philosophie. C'est assez intéressant d'ailleurs de se demander quelle philosophie cet Olivier d'Ancône pouvait bien maîtriser. Et en fait, on s'aperçoit en regardant un petit peu l'univers, le monde philosophique de cette époque à cet endroit-là, que c'est très éclectique, en fait. Olivier d'Ancône a certainement entendu parler de Platon et des platoniciens, leur idéalisme, leur sens de la politique très ordonné, très organisé. Il a probablement aussi entendu parler des péripaties, les disciples d'Aristote, lui-même disciple indiscipliné de Platon, à tendance plus encyclopédique, qui veulent accomplir une description à peu près totale du monde. Enfin, il connaît probablement les stoïciens, cette philosophie qui a été mise au goût du jour par un esclave, Épictète, et reprise beaucoup plus tard, enfin un peu plus tard, par un empereur, Marc Aurèle, une philosophie qui pense que le monde est parfaitement organisé et nécessairement organisé, et que dans ce monde, il vaut mieux changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, si on veut vivre à peu près peinard. Olivier d'Ancône avait aussi, et c'est un peu la quatrième école, enfin, si on veut, entendu parler d'Épicure et des Épicuriens, pour lesquels le monde est infini, uniquement composé de matière, les atomes, et de vide, un monde que les chrétiens de l'époque évidemment refusaient et qu'ils considéraient comme parfaitement inepte. Par ailleurs, et enfin, je voulais pas parler d'école, Olivier d'Ancône avait certainement entendu parler des sceptiques, skeptomai, j'examine, les gens qui doutent de tout. Sauf du fait qu'ils doutent, et c'est d'ailleurs leur limite, qu'il n'y ait aucune vérité, ils l'affirmaient comme une vérité, ce qui peut à juste titre paraître un tout petit peu étrange. Olivier d'Ancône, lui, était probablement donc dans une espèce d'éclectisme, et se devait circuler grâce à sa probable connaissance du latin et du grec, il devait circuler assez à l'aise dans ses différentes philosophies pour se faire la sienne à lui.
Thank you.
Boès, le philosophe de l'Antiquité tardive, du Haut Moyen-Âge, comme il est d'habitude décrit, Boès est né en 480. Il a une connaissance à peu près générale de tout ce qui se fait en science, en logique, en philosophie, en littérature à son époque, et il est, grâce à sa connaissance du grec et à sa pratique évidemment quotidienne du latin, il est un peu au passage de la philosophie classique grecque et du monde latin. Boès a un destin tragique dans la mesure où il va être emprisonné puis exécuté sous les ordres de Théodoric le Grand, Théodoric Ier, roi des Ostrogoths, autrement dit roi d'Italie à l'époque. Boès était accusé d'avoir quelques petits arrangements avec Justinien, l'empereur d'Orient, qui avait évidemment des vues sur l'Italie, voulant reconstituer l'Empire d'Orient et d'Occident. Enfermé, Boès, sinon torturé, du moins bien malmené, Boès écrit et reçoit, comme sous forme de vision, reçoit dans sa cellule philosophie en personne, et donc nous raconte ce qu'il voit. Pendant que je ressassais, silencieux, ces vers en moi-même, et que je confiais à mon stylo le soin de tracer ma plainte larmoyante, je vis apparaître à mes côtés, au-dessus de ma tête, une femme dont l'aspect inspirait la plus grande vénération. Elle avait des yeux ardents et plus perçants que la vision du commun des hommes. Son teint était vif et sa vigueur inépuisable, bien qu'elle fût si chargée de siècles qu'il était impossible de la croire de notre temps. Sa taille était difficile à distinguer, car tantôt elle se maintenait dans les mensurations du commun des hommes, tantôt le sommet de sa tête semblait frapper le ciel, et comme elle se dressait fort haut, elle pénétrait aussi le ciel lui-même et trompait la vue et les regards. Ses vêtements étaient faits de fils très fins, avec un art subtil et dans une matière indestructible. Et comme je l'ai appris ensuite, quand elle me le révéla, elle les avait elle-même tissés de ses propres mains. Quant à leur apparence, comme d'ordinaire, les portraits enfumés des ancêtres, elle était obscurcie par un voile d'ancienneté dû à la négligence. On lisait en grec, bordé sur le bord, tout en bas, un « pi ». Tout en haut, un theta, et entre les deux lettres, on voyait, à la manière d'une sorte d'échelle, des degrés marqués d'un signe qui permettait l'ascension du caractère inférieur au caractère supérieur. Pourtant, des mains brutales avaient déchiré ce vêtement et arraché chacune les lambeaux qu'elle avait pu emporter. Et elle tenait de la main droite des opuscules, un sceptre de la main gauche. Quand elle vit les muses de la poésie se tenir près de mon lit et dicter leurs paroles à mes pleurs, elle s'irrita un moment et ses yeux farouches lancèrent des flammes. « Qui a permis, dit-elle, à ces petites catins de Seine de s'approcher de ce malade ? Non seulement elles ne peuvent porter aucun remède à ces douleurs, mais elles pourraient en plus les nourrir de leur doux poison. Ce sont elles, en effet, qui tuent sous les épines stériles des passions, la moisson féconde et les fruits de la raison, et qui accoutume l'esprit humain à la maladie sans le libérer. » De la pratique pi à la théorie theta, à travers les différentes sciences et sans la poésie. Voilà tout le travail de philosophie que j'ai eu le plaisir d'accomplir un tout petit peu dans les jardins suspendus. Il me reste à remercier Landy Unger qui nous a choisi I Love Her, c'est Pat Metheny dans l'album One Quiet Night, Grammy Award du meilleur album New Age en 2004. Landy Unger, l'ange musical des Jardins Suspendus, Because I Love Her. Et puis merci à Sylvain qui a réalisé tout ça pendant toutes ces années. Ciao, ciao.